C'est le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er. On va lire ce simple verset. Voilà. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Vous m'entendez, ça va? La pensée maîtresse pour nous, enfants de Dieu, c'est que nous nous retrouverons tous un jour devant le Seigneur et il nous faudra rendre des comptes. Il nous faudra rendre des comptes. Le Seigneur nous parlera, je veux dire, nous causera avec nous, mais il nous parlera pour nous rappeler certaines choses. Et il nous faudra bien, quelque part, aller être heureux et fier d'être devant lui. Parce que si c'est le contraire, c'est plus grave. Alors bien sûr, ça nous demande de marcher chaque jour devant sa face, tout simplement sous son regard. Que nous le voulions ou non, il sait tout ce que nous faisons. Il sait tout ce que nous pensons. Il voit tout. Et ça, nous devons bien en être conscients. Abraham est déjà âgé. Il a fait de nombreuses expériences avec Dieu. Il vient de passer également une période difficile. Il a conçu un enfant avec Agar, sa servante, et ça c'est sur les conseils de sa femme. Hein. C'est elle qui lui a conseillé de faire cela. Et malheureusement, ça lui a causé bien des soucis et des problèmes. Ça l'a amené dans de grandes difficultés. Alors il va chasser Agar, parce qu'il y avait une scène particulière avec sa femme, il y avait des temps difficiles et également qui amenaient de la souffrance. Donc il la chasse, tout simplement. Et voilà que Dieu ramène Agar vers Abraham. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une période de trouble pour lui, hein? Une période de confusion, tout simplement. Et Dieu lui rappelle une chose, tout simplement. Ce qui, finalement, va être un signe de maturité. Il va, quelque part, lui dire, il faut dorénavant que tu apprennes à marcher sous mon regard. Il faut que tu apprennes à marcher en sachant que je te vois, allez, tes faits et gestes sont connus de moi. Et c'est vrai que nous devons faire la même chose. C'est que Dieu nous regarde dans tous les instants de notre vie. En plus, il nous le rappelle, il y aura des comptes à rendre. Amen. La parole de Dieu nous parle de plusieurs sortes de marches. Nous voulons marcher derrière lui. Et Jésus a répété à plusieurs reprises, Toi, suis-moi. Et lors de notre conversion, c'est un petit peu ce qu'il nous a dit. Allez, viens, suis-moi. Hey, tu as compris maintenant? Allez, laisse tomber le reste, suis-moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il veut être notre guide. Et quand nous marchons à sa suite, eh bien, nous marchons tout simplement avec assurance, sans crainte. Nous savons qu'il nous amènera à bon port. Amen. Parce que comme nous l'avons chanté, il veut le meilleur pour nous. Dieu n'est pas là pour nous amener constamment à la contrariété. À la confusion, non, non, il veut nous donner des certitudes. Alors laissons-nous guider par lui, nous aurons de l'assurance, parce que, eh bien, nous comprendrons que là où il veut nous amener, c'est le meilleur pour nous. Nous pouvons marcher également avec lui. Ça, c'est quand, eh bien, nous apprenons à partager avec lui notre vie, hein, dans la communion avec lui, quand, eh bien, avant de nous engager dans une direction ou une autre, nous prenons le temps de nous placer devant lui pour l'interroger. Et c'est justement quand eh bien, nous marchons avec lui que, quelque part, notre intelligence, nos forces, nos capacités sont renouvelées. Nous sommes forts. Alléluia. Nous sommes forts. Nous pouvons marcher devant lui. Ouais, quand nous marchons eh bien, allez, avec la paix dans le cœur, quand nous sommes fiers de lui appartenir, nous marchons sous son regard. Vous voyez, nous marchons devant lui. Nous assumons nos responsabilités également. Hein. Nous savons que, eh bien, nous aurons des comptes à lui rendre, donc aucune crainte. Seigneur, je fais ça parce que. Voilà. Et puis, quand nous sommes en train dans le monde dans lequel nous vivons, nous évoluons, eh bien, quelque part, que nous rendons témoignage. Alors, pas simplement en parole, mais par notre vécu. Eh bien, quelque part, nous marchons devant lui. Nous assumons nos responsabilités. Il nous a sauvés, c'est notre vocation pour le servir. Amen. Bon, la vie chrétienne, bien sûr, concerne, je dirais, pas simplement les temps où nous sommes là, mais également tous les domaines de notre existence. Même quand nous sommes à nos propres affaires, nous devons le faire sous le regard du Seigneur. Vous voyez, il faut que ce soit, excusez-moi, mais clean, clair. Eh oui, nous sommes ses enfants. Est-ce que vous aimez que vos enfants vous cachent des choses? Que vous apprenez après par la bande, par les autres? C'est décevant. Il ne me fait pas confiance alors. Eh oui, donc c'est bien, hein, devant le faire en sachant que eh bien, c'est devant Dieu, donc allez, n'ayons pas honte. Hein. Alors s'il y a quelques réticences à lui faire savoir, c'est que peut-être c'est pas très clair, ou c'est pas tellement dans ses plans à lui, dans sa volonté. C'est Paul qui va dire dans sa lettre aux Romains, chapitre 14, alors verset 1er, j'ai tranché parce qu'on ne va pas tout lire, hein, il fallait jusqu'au verset 12, donc après le verset 8 et le verset 12. Il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions, car nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Pour lui-même. Jean, il ne va pas rendre compte pour moi. Hein. J'ai mal fait. Et Jean, il est clean, hein. Peut-être qu'il me l'aura dit, attention Bernard, tu n'es pas bien. Hein. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Alors il faut bien que chaque enfant de Dieu ait à l'esprit, hein, dans son esprit, cette pensée que le Seigneur, lui, il nous traite et il nous considère comme des responsables. Responsables de nos actes, de notre comportement. Je sais que la société, sur le plan, comment on appelle déjà, juridique, dédouane beaucoup de gens. Il est irresponsable. Et c'est bien Zamin qui a frappé, non? Eh oui, il est irresponsable. Ça vient de son éducation, vous vous rendez compte? Et comme ça, on entend. Hein, dans les avocats, ils plaident bien avec ces choses-là. Hein. Eh oui. Alors, est-ce que cette attitude-là va faire de nous des gens frustrés? Non. L'apôtre Paul dit que même le manger, le boire, le travail, les loisirs, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Amen. C'est important, hein? C'est donc une attitude de cœur, je dirais même une prise de conscience. Je veux lui plaire. Donc, je vais tout faire pour qu'il se réjouisse de ma vie. Hein? Eh oui. C'est Paul qui va dire aux Corinthiens, en Corinthiens 10, 31, si soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur qui n'est pas ingrat, on le sait, il n'est pas ingrat du tout. On sait qu'il est riche en bonté. Eh bien, il nous promet des récompenses. Bien sûr, certaines conditions. Est-ce que vous, vous récompensez de vos fils qui vous manquent? Ou de vos filles qui vous manquent? Vous allez récompenser avec joie et avec bonheur celle qui vous dit la vérité, bien que ça lui coûte. Non? Eh oui, c'est la même chose. Alors, à condition que nous vivions pour lui plaire, que notre vie spirituelle, c'est une vie spirituelle conséquente et pas légère, eh bien Dieu saura nous récompenser au temps voulu. On ne fait pas ça pour la récompense, hein, mais on fait parce qu'on veut lui plaire. On veut réjouir son cœur. La même manière dans la manière de bâtir notre vie, c'est l'apôtre Paul qui propose, lui, il propose 6 éléments que nous aurons à subir, hein, qui auront à subir l'épreuve du feu. En fait, il y a 3 éléments de peu de valeur. Je le rappelle, on va le lire ensemble tout à l'heure. Mais il y a le bois, le foin, le chaume, qui brûleront et qui ne donneront finalement droit à aucune récompense. Puis il y a 3 éléments qui nous auront coûté. Bien sûr, hein, ces éléments qui nous auront coûté, ils sont, eux, d'une grande valeur. Il est question de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et là, bien sûr, on le sait, il est rattaché à cela bien des récompenses. Ça va nous rapporter. Alléluia, le meilleur placement, c'est ça. Hein? Eh oui, mais sérieusement, quand nous bâtissons sur des choses précieuses, belles, on sait que ça va durer. Mais on sait également que ça va réjouir le cœur de notre Père Céleste. Et puis, on est fiers, excusez-moi, je parle de fierté aujourd'hui, mais on est heureux. On est heureux d'avoir quelque part fait quelque chose qui lui plaît. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie vie chrétienne nous coûte. Eh oui, c'est pas gratuit. Mais comme Il est dit, et je l'ai dit un petit peu plus haut, mais elle sera richement récompensée. Amen. C'est-à-dire que quand on est fidèle avec Dieu en toutes choses, on n'est jamais pauvre. Mais oui. Alors c'est en effet ce que dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. J'ai combattu des incendies quelques années, hein. J'ai fait ça 15 ans. Mais des fois, on n'est pas très fier dans un incendie. Hein. D'abord, ça chauffe. Ça pique aux yeux. Il y a une odeur. Et puis, quand je dis que ça chauffe vraiment. Hein. Moi, j'ai eu plusieurs fois là, les oreilles qui cloquaient. Hein, parce qu'il faisait tellement chaud. Eh oui. On n'est pas tranquille. Hein. Eh oui. Alors, être sauvé comme au travers du feu, ça veut dire c'est in extremis. Tu peux basculer d'un côté ou de l'autre. Sauvé. J'ai pas mal, hein. Mais je pense qu'il y a mieux. Croyez pas? Eh oui. Alors, on va poursuivre dans cette même pensée où Paul nous fait ressortir la responsabilité de chacun. Et là, il s'adresse à Timothée et il lui dit, de Timothée 2,15, « Efforce-toi. » Donc, ça demande un effort. C'est ce que je dis. C'est pas gratuit, ça tombe pas comme ça. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. » Donc, il est bon de prendre le temps, de temps en temps, ce n'est pas un jeu de mots, mais le temps de nous arrêter, de nous présenter devant Dieu, de présenter notre vie, nos sentiments, nos projets, nos activités devant le Seigneur et nous attendre à ce qu'il nous parle, qu'il nous réponde. Parce que ce n'est pas un monologue. Dieu met des sentiments en nous. Il met une pensée qui va jaillir. Il peut nous parler. Vous l'avez déjà entendu parler à l'oreille? Moi, je l'ai entendu parler à l'oreille. Et c'est vrai que quand il nous parle à l'oreille, et qu'on voit la chose se réaliser guère après ou un temps après, on dit, mais c'était bien ta voix, Seigneur. On peut pas se tromper, hein? Eh oui. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul dit ceci, je prends la version française courante, c'est 1 Corinthiens 4, je trouve qu'elle est plus parlante, vous allez comprendre. Il dit donc au verset 2, tout ce qu'on demande à un homme chargé de responsabilité, c'est d'être fidèle. Pour ma part, je ne me soucie pas d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience ne me reproche rien. Mais cela ne prouve pas que je sois réellement innocent. Vous voyez comme quoi on peut se tromper ou s'abuser soi-même. Donc il faut être sérieux, conséquent. Il rajoute, le Seigneur est celui qui me juge. Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres de l'obscurité. Il révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors chacun recevra de Dieu la louange pour lui-même. Amen. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, quelque part, ou tout ce que nous désirons faire, doit être opposé avec l'Écriture. Si je fais ça, est-ce que ça va plaire à Dieu? Si je m'engage sur ce chemin, est-ce que j'aurai encore du temps pour Dieu? Je me rappelle d'une famille que j'avais dans une église et qui me disait, oh là là, formidable, ça y est, on a trouvé, et vraiment ça correspond. Et puis, au fur et à mesure qu'ils me parlaient, je dis, mais là où ils vont, là ils s'engagent dans ce chemin-là, ils vont déménager, ils vont aller à tel endroit, mais pour moi, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de lieu de rencontre, de communion, ils vont être seuls, isolés. Et connaissant leurs moyens, je savais qu'ils n'allaient pas l'être là, faire les voyages toutes les semaines, c'est impossible. Et je leur dis, mais tu es sûr que c'est vraiment la volonté de Dieu? Et puis ça les a fait réfléchir. Et finalement, ils n'y sont pas allés. Vous voyez? Donc il faut, vous voyez, placer tout ça sous le regard de Dieu, avant de s'engager, avant d'aller justement vers... J'allais dire non-retour, si des fois on revient, mais on revient comment? Eh oui. Alors le danger que Paul veut éviter, c'est celui de plaire aux hommes, ou quelque part de se faire juger par eux. Il sait que c'est le Seigneur qui le jugera. Amen. Et c'est la même chose pour nous. C'est le Seigneur qui un jour nous jugera. Amen. C'est ce qui va se passer, c'est qu'un jour, eh bien, du Seigneur, nous recevrons la louange. Et j'espère que c'est la louange. Amen. Et le Seigneur prendra le temps de nous féliciter, de nous dire son contentement à notre égard. Voilà, tu m'as réjoui quand tu as pris position, là, t'as pas eu peur. Pourtant, il était braqué, le gars. Mais non, t'as pas eu peur. Ou la situation était conflictueuse, mais tu as su, quelque part, prendre ta part et les faire réfléchir. Ah oui, c'est formidable, hein? Amen. Alors, bien entendu, il est important de faire ce que le Seigneur attend de nous pendant notre pèlerinage terrestre, parce que c'est ça, nous sommes dans un pèlerinage. Nous savons une chose, c'est que des œuvres sont préparées pour chacun de nous. Et Dieu ne nous demande pas tout simplement des choses exceptionnelles. Mais il nous demande simplement de faire ce que nous trouvons à faire. Amen. Et ce que nous pouvons faire, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. On n'a pas la capacité, on n'a pas les moyens, mais c'est comme ça. Hein? Mais ça, on est foutre vrai. Hein? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Eh oui. Alors Jésus dira aux disciples au sujet de Marie de Magdala, qui avait répandu sur lui un parfum de grand prix dans Marc chapitre 14, verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et il rajoute, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Alléluia. A pris du parfum, parfum de grand prix, ça va lui être reproché par Judas. Vous voyez ? L'état d'esprit d'un de l'autre. Mais elle a fait ce qui était à sa portée. Elle a voulu honorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Elle a versé des larmes, elle a dénoué ses cheveux. Hein, quelque part, elle reconnaissait qui il était réellement. Amen. Puis également, il y a des comportements qui nous font réfléchir. Quel est l'homme qu'on appelle le champion de Dieu ? Dans l'Ancien Testament. Job ! Qui c'est qui a dit Job ? Oh, tricheuse. Tu l'as vu, non ? Alors, le comportement de cet homme, quelque part, il nous fait réfléchir. Hein. Regardez un petit peu. Job, chapitre 29, versets 4 à 6 et 15 à 16, après 24. J'ai fractionné, sinon ça fait des tartines à lire. Hein. Mais on pourquoi que ça ne fait pas de mal hein. Mais la pensée, elle est là, hein, dans ces quelques versets. Alors, il dit, « Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur ?» Donc, il a pris de l'âge. Il y a eu des expériences. D'ailleurs, le verset 29, c'est près de la fin. Hein. Il dit, « Où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi. Car mes pieds baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. J'étais, écoutez bien, l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. Je donnais tous mes soins au cas de l'étranger. Je leur souriais quand ils perdaient courage. » Quelle leçon ! C'est une leçon de vie, ça, ou pas ? C'est des choses très pratiques, hein ? Ils se mettaient à la portée du prochain, tout simplement, hein ? Job a fait des choses toutes simples. Elles sont aussi à notre portée. Hein. Il a fait ces choses parce que, eh bien, il avait l'amour du prochain. Amen. Un sourire, ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas cher. Mais écoutez, celui qui bénéficie du sourire de quelqu'un, eh bien, ça peut lui faire du bien, alors que peut-être il est découragé, il est prêt à passer à l'acte, pour quelque chose d'irréparable. Voilà que ça peut le ramener à la vie. Amen. Ça peut lui donner du tonus pour repartir. Alors le Seigneur, bien sûr, n'est pas ingrat. Il a promis de nous récompenser non seulement pour nos actes, mais aussi pour notre comportement, le témoignage que nous donnons. Vous voyez, le témoignage, ce n'est pas simplement en parole, c'est ce que je suis. Néanmoins, eh bien, nous agissons, nous, tout simplement, pas pour des récompenses, mais par amour, pas par intérêt, mais parce que nous l'aimons. Alléluia. Est-ce selon l'exemple que nous avons de Jésus lui-même, Marc chapitre 10, verset 29, « Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. » Aïe, aïe, aïe. Et oui, pourtant, il faut en parler. Hein. « Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors vous avez remarqué que le Seigneur parle de récompense Sans oublier également les persécutions. Est-ce que c'est normal pour un enfant de Dieu? Bah oui. Ce qu'ils m'ont fait, ils le feront. Hein? C'est ce qu'a dit le Seigneur, hein? Bien sûr. Nous vivons dans un monde qui est hostile à la présence de Dieu, à la personne de Dieu, à Jésus son Fils, à la croix. Alors, quand je réalise ces choses, béni, oui, mais certainement qu'il y aura des temps hostiles, des temps difficiles. Je vais rencontrer de l'opposition, de la persécution. Oui, je n'ai pas à m'en offusquer, mais je vais continuer à être fidèle. Et c'est au bout qu'il y aura la récompense. Amen. C'est au bout que, quelque part, Dieu se réjouissant de ce que je représente, du témoignage que je donne autour de moi, eh bien, qu'il va se faire un plaisir de se glorifier en nous. Amen. Vous voyez ? Et puis également, c'est parce qu'on fait ce qui lui plaît qu'intérieurement, il y a ce témoignage intérieur comme un écho. Vous voyez, on est fortifié. On est dans la paix. On est dans le calme. On est dans le repos. Amen. Et puis, quelle surprise pour l'enfant de Dieu, peut-être ignoré dans son église, mais qui a cherché à plaire au Seigneur, tout simplement. Hein. Quand le Seigneur l'appellera, et puis il lui dira, viens devant, au premier rang. Quelle surprise, hein. Et aussi pour ceux qui, par exemple, auront aimé se mettre en avant, mais qui n'auront pas été fidèles jusqu'au bout, vous voyez, qui auront fait avec peut-être réticence, ou quand le Seigneur va les mettre au dernier rang. Vous comprenez? Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, Jésus parle de récompense pour les outrages, quelquefois les médisances, les persécutions, même dans le pratique de la justice. Vous faites ce qui est droit, ce qui est honnête, ce qui est juste, selon la loi, mais en plus pour faire plaisir à Dieu, et voilà que vous êtes persécuté. Dans les autres mondes également. Mais il dit, votre récompense sera grande dans le ciel. Alléluia! C'est important ça. Alors, concernant également nos prières, nos jeûnes, hein, Jésus dira, ton Père te le rendra. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Alléluia. Alors, apprenons à agir envers le prochain en voyant Jésus au travers de lui, parce que c'est ça. Ce que vous faites à un de ses petits, c'est à moi que vous le faites. Hein, quand vous m'avez venu, que vous m'avez revêtu, Seigneur K, eh bien, vous l'avez fait là, au gars qui était à côté, là, qui était malheureux. Eh bien, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Eh oui. Alors il dit envers celui qui a faim, qui a soif, qui est étranger, qui est nu, qui est malade, qui est en prison. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, hein, donc quelque chose de bon, à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Et ça, c'est apprendre à marcher devant Dieu, sous le regard de Dieu, comme il désire. Et quand nous faisons comme cela, oui, nous changeons. Et notre attitude est transformée, notre cœur est dans la paix. Il va être insensible au jugement des autres. Nous sommes même animés de compassion. Qui a été lapidé? Qui dit, Seigneur, pardonne-leur. Étienne, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Comme le Seigneur l'a dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Vous voyez, au lieu d'avoir un jugement sévère, on a une attitude de compassion, amen, à l'égard du prochain et trouvant toujours quelque chose d'utile à faire, de bien pour lui être agréable, pour être agréable au Seigneur, on sera agréable pour lui aussi. Mais voilà, on a une bonne conscience, un bon état d'esprit, on réjouit le cœur de notre Seigneur, nous-mêmes nous réjouissons. Ouais. Non? Tiens, il avait un comportement exécrable, regarde. J'ai répondu comme ça. Ça lui a coupé le sifflet. Et oui, puis lui aussi, eh bien, il agit autrement à mon égard. Quand je me suis converti, je regardais mes collègues de travail, et puis je disais, mais oh, il est différent d'avant. Je voyais l'autre, je disais, puis mais il est super sympa. Comment ça se fait? En fait, ce n'est pas eux qui avaient changé, c'était moi qui avais changé. Et c'est comme ça. Hein? L'autre change aussi, hein? Parce que c'est comme ça. Alors, on va avoir un moment de prière, vous voulez bien? On a le temps?